Ici, je vais t'écrire. Le yogi doit comprendre les symboles dans lesquels la conscience puissance arrange la manifestation. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je vous ai déjà dit, expliqué, que les formes extérieures, si on les regarde, non pas en elles-mêmes, pour elles-mêmes, dans leur apparence extérieure seulement, mais comme l'expression d'une réalité plus profonde et plus durable, alors, toutes ces formes, comme toutes les circonstances et tous les événements, tout devient symbolique de la force qui est derrière et qui se sert d'eux pour s'exprimer. Il n'y a pas une circonstance, pas une forme, pas une action, pas un mouvement qui ne soit symbolique de quelque chose de plus profond qui se tient là derrière et qui normalement devrait animer toutes les actions. Pour un certain état de conscience, il n'y a pas un mot, pas un geste, pas une action qui ne soit expressive d'une réalité plus profonde ou plus haute, plus durable, plus essentiel, plus vrai. Et alors, une fois qu'on a vu et qu'on a senti ça, toute chose prend une signification. Et on voit plus clairement comment les choses devraient être organisées, arrangées, pour qu'une vérité plus profonde puisse s'exprimer encore mieux qu'elle ne s'exprime. Et alors?
Ici, c'est écrit, dans les arts, le but du yogi doit être non une simple satisfaction esthétique, mais voyant le divin partout, d'exprimer cet un divin dans les dieux, les hommes, les créatures et les choses. Qu'est-ce que ça veut dire exprimer cet un divin?
C'est un tableau où quand tu fais de la musique ou quand tu écris de la poésie, Alors il dit là, n'est-ce pas, les dieux, les hommes ou les choses, ça dépend du sujet que l'on... dans lequel on veut t'exprimer. Chacun a sa manière de dire, n'est-ce pas? Et alors, chaque peintre, chaque musicien, chaque poète, chaque sculpteur a un contact ou devrait avoir un contact unique, personnel avec le divin et à travers le métier qui lui est propre, l'art qu'il a maîtrisé, il doit exprimer ce rapport à sa manière, avec ses propres mots ou ses propres couleurs. Pour lui, au lieu de copier la forme extérieure de la nature, il prend ses formes comme le revêtement de quelque chose d'autre, justement de sa relation avec les réalités qui sont derrière, plus profondes, et il essaye de les faire exprimer ça, au lieu de juste imiter ce qu'il voit. Il essaye de leur faire dire ce qui est derrière. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre un art vivant et puis juste une plate copie de la nature. Vous avez remarqué cette fleur? Elle a 12 pétales. En 3 rangées de 4. Nous avons dit que c'est la perfection psychologique supramentale. Je n'avais jamais remarqué qu'elle a 3 rangées, une petite rangée comme ça, une un peu plus grande et une encore plus grande. Et elles sont en alternance de 4. 4 pétales, 4 pétales, 4 pétales. Eh bien, si on veut voir justement dans les formes de la nature, une expression symbolique, on peut voir un centre qui est la vérité suprême et une triple manifestation, parce que quatre c'est la manifestation, une triple manifestation dans trois mondes superposés. Le plus extérieur, ce sont les plus grandes pétales, les plus claires. Et puis, ça c'est un monde physique, un monde vital et un monde mental. Et puis au centre, il y a la vérité supramentale. Et vous pouvez retrouver toutes sortes d'autres analogies. C'est tout.
De travail que vous a expliqué ici. Et si dans l'œuvre une division est à faire, il y a pour ça un exemple entre les combustibles qui brûlent fortement et les bouches qui étant en passé trop serrées sur lequel pour nuire à l'arbre du feu. Alors, à quoi ça correspond psychologiquement dans notre vie?
Qu'est-ce que c'est? Je suppose pour chacun c'est différent. Alors, chacun doit trouver les activités qui augmentent son aspiration, sa conscience, sa connaissance profonde des choses, et puis celle qui, au contraire, le mécanise et le ramène plus complètement à une relation purement matérielle avec les choses. C'est difficile de faire une règle générale.
comme c'est dit aussi, de chaque chose, si c'est fait d'une façon exacte, comme une offrande.
Hein?
Comme c'est dit aussi, que de chaque travail, si c'est fait d'une façon offrande.
Je crois que, à vrai dire, ça dépend plus de comment on fait les choses que de la chose elle-même. Vous prenez un travail tout à fait matériel, comme de nettoyer un parquet ou d'enlever la poussière dans une chambre. Eh bien, il me semble, moi, que ce travail-là peut conduire vers une conscience très profonde s'il est fait avec un certain sens de perfection et de progrès, tandis que d'autres travaux qui sont réputés comme des travaux d'ordre supérieur, comme par exemple des travaux d'études ou des travaux littéraires et artistiques, s'ils sont faits pour la recherche de la gloire ou de satisfaction d'amour propre ou d'un bien matériel, il ne vous aide pas à progresser. Alors, ça fait déjà un genre de classification qui dépend plus de l'attitude intérieure que du fait extérieur. Mais cette classification-là peut s'appliquer à tout. Et naturellement, il y a le genre de travail que l'on ne fait que pour une raison purement lucrative et personnelle, comme celui, quel qu'il soit, que l'on fait pour gagner sa vie. Cette attitude-là elle est justement l'attitude qu'il décrit comme les morceaux de bois mouillé qui sont trop entassés et que la flamme ne peut pas jaillir. Ça a quelque chose d'humide et d'abrutissant. Et cela nous ramène à quelque chose que je vous ai dit déjà plusieurs fois. Mais qui pose un problème que les circonstances n'ont pas encore résolu. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais enfin, je vous en parle ce soir à cause de cette phrase de Chirvino. Au commencement de mon existence terrestre actuelle, j'ai été mise en rapport avec beaucoup de gens qui disaient qu'ils avaient une grande aspiration intérieure, un élan vers quelque chose de plus profond et de plus vrai, mais qu'ils étaient liés, soumis, esclaves de cette nécessité brutale de gagner leur vie, et que cela les alourdissait tellement, leur prenait tant de temps et tant d'énergie, qu'ils ne pouvaient pas se livrer à aucune autre activité intérieure ou extérieure. J'ai entendu ça très souvent. J'ai vu beaucoup de pauvres gens, je ne dis pas pauvres au point de vue monétaire, mais de pauvres gens parce que ils se sentaient emprisonnés dans une nécessité matérielle étroite et abrutissante. J'étais très jeune de ce temps-là. Et je m'étais toujours dit que si jamais je pouvais le faire, je tâcherai de créer un petit monde, oh, tout petit, et enfin un petit monde où les gens pourraient vivre sans avoir à se préoccuper de la nourriture, du logement, du vêtement et des nécessités impérieuses de la vie, afin de voir si toutes ces énergies libérées par cette certitude de l'existence matérielle assurée se tournerait spontanément vers la vie divine et vers la réalisation intérieure. Eh bien, vers le milieu de mon existence, enfin ce qui est généralement le milieu d'une existence humaine, ce moyen m'a été donné. Et j'ai pu réaliser ça. C'est-à-dire créer des conditions de vie comme cela. Et je suis arrivée à cette conclusion. Que ce n'est pas cette nécessité qui empêche les gens de se consacrer à une réalisation intérieure, que c'est une veulerie, c'est un tamas, c'est un manque d'aspiration. C'est un laisser-aller misérable. Un je m'en fichisse. Et que ceux qui ont même les conditions de vie les plus difficiles, ce sont quelquefois ceux qui réagissent le plus et qui ont l'aspiration la plus intense. Voilà. J'attends qu'il me soit prouvé le contraire. J'aimerais beaucoup voir le contrat. Mais je ne l'ai pas encore vu. Comme il y a beaucoup d'énergies qui ne sont pas utilisées, puisque cette compulsion terrible d'avoir ce qu'il faut pour manger, ou un toit pour dormir, ou des vêtements pour se mettre sur le dos, comme ça, ça n'existe pas. Comment on est sûr d'avoir ça? Il y a toute une masse d'énergie qui ne sont pas employées à ça. Eh bien, on les emploie à faire des bêtises. Et une des bêtises qui me semble être la plus désastreuse, c'est de faire marcher sa langue. Bavarder. Je n'ai pas connu de place où on bavarde plus qu'ici. Et pour dire toutes les choses que l'on ne devrait pas dire, pour s'occuper de toutes les choses que l'on ne devrait pas s'occuper. Et je sais, n'est-ce pas, que c'est tout simplement un débordement d'énergie inutilisée. Voilà. Alors, la division n'est peut-être pas tout à fait celle que l'on croit. I think we must stop. Nous n'aurons pas de méditation ce soir, parce que vous risquez d'avoir une méditation mouillée. Ou alors il peut enlever ça. If you take it, nous aurons un orage.